Il y a beaucoup de choses que vous avez soulevées, imam, que je n'ai pas su quand j'ai lisé sur le texte sur le califat. Sur le plan institutionnel, parce que c'est là où je travaille plus avec les institutions pour regarder leur capacité institutionnelle. Comment est-ce que leurs rêves deviennent leur réalité? Comme vous l'avez entendu, l'imam l'a bien décrit, que le passage du rêve que le prophète avait, Dieu bénit son âme, à la réalité, a connu des problèmes, et le problème dont l'imam a soulevé était d'ordre moral et éthique, la corruption. L'idée était bonne, mais les gens qui devaient mettre en application cette idée étaient corrompus. Et l'imam a fini par questionner la capacité morale d'Abou Bakr. Comment il va le faire? D'abord, il ne consulte pas d'autres zèles de l'islam qui sont des chiites et les autres groupes. Il veut installer un califat en excluant les autres, parce que jusque-là, ce sont des sunnis, des sunnites. C'est la première question. Comment est-ce qu'il réunit toutes les tendances islamiques pour aller de l'avant? Ça, c'est du côté capacité institutionnelle. Donc, le passage du rêve à la réalité. Sinon, cela devient une illusion. Et nous avons vu cela avec ce qui s'est passé en Afghanistan, où ceux qui ont pris l'Afghanistan avaient ces rêves-là du califat qui part du levant au coucher du soleil. Mais aujourd'hui, quand on regarde les violations des droits de l'homme, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Et Abou Bakr vient pour répéter les mêmes histoires. Il a en main 450 millions de dollars qu'il a pris dans le banque. Ça, c'est déjà du vol. Et je ne crois pas que vous pouvez partir du vol à être sérieux, parce qu'il ne pouvait pas prendre cet argent-là. Et maintenant, il y a plus de 7 millions de gens qui sont des enfants qui dorment dehors à cause de lui. Je ne crois pas que ces enfants vont suivre un tel leader. Je m'arrête là dans l'entretemps.
Ok, merci Fidel. Je reviens maintenant à l'imam Youssouf Doumbia pour parler de ce califat. En réalité, imam, c'était aussi le rêve de Oussama Ben Laden.
Bon, je ne sais pas si c'était le rêve de Oussama Ben Laden, parce que je ne connais pas trop de Oussama Ben Laden, mais il faut savoir que pour qu'il y ait la khalifa dont le prophète avait parlé, et de nos jours, ça ne serait pas vraiment facile. Voilà, ça ne serait pas facile. Alors, les musulmans, partout dans le monde aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont pas de calife, ils n'ont pas de chef spirituel comme on peut voir dans d'autres religions où tout le monde suit un chef qui est, si vous voulez, quelque peu vénéré. Simplement, leur guide et le livre qui est le Coran que Dieu leur a laissé, et les dires du prophète qui sont les hadiths. Alors, comme le prophète lui-même a prédit, je vais partir, mais je vais laisser entre vos mains le Coran et mes paroles, mes hadiths. Alors, si vous accrochez à ces deux choses-là, alors vous ne vous perdrez jamais. Alors, c'est avec vraiment regret qu'on constate que d'autres ont eu une mauvaise lecture de ces deux références du livre de l'islam, ces deux références de l'islam qui sont, si vous voulez, les baromètres, les guides même de la communauté. En même temps, si vraiment vous avez eu des gens qui comprennent et qui ont une bonne lecture de ces deux références, vous serez guidé sans forcément imiter quelqu'un qui va prétendre que lui est le chef et qu'il doit être suivi.
Il a dit que toute la Oumma, toute la nation, toute la famille musulmane devrait faire acte d'allégeance. Et il vous a demandé, à vous aussi, imam Youssouf Doumbia, de faire acte d'allégeance. Alors, allez-vous faire acte d'allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi?
Qui a dit ça?
Abou Bakr al-Baghdadi.
Je n'ai pas suivi ça. Moi, je ne le connais même pas d'abord. Voilà, moi, je ne le connais pas. Moi, j'ai mon Coran. j'ai mes hadiths et je pratique mon islam. Alors, ce qui fait que moi, je ne suivrai pas quelqu'un qui va... tout ce qu'on vient de dire sur lui, c'est, ça salit déjà son image. Le fait d'aller s'accaparer des biens du pays et d'envoyer des gens dans la rue, d'amener d'autres à être affamés. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on a vu les khalifs qui ont suivi le prophète. On a vu Omar, par exemple. Lui, lorsqu'il était à la charge, lorsqu'il était devenu le khalif du prophète, il ne dormait jamais sans savoir que tout le monde dort en paix dans la cité où il était, qui était Médine. Donc, c'était l'homme qui était équitable. C'est l'homme, il se souciait parce qu'il se disait que Dieu va me poser des comptes, il va me demander des comptes sur tout ce que j'ai géré. Donc, il ne dormait jamais sans savoir si toute la ville était en sécurité avant de s'endormir. Et dans sa quête de cela, un jour, il va tomber sur une femme qui était affamée avec ses enfants. Et Omar ira chercher de la nourriture pour venir donner à cette femme. Et comme la femme ne savait pas que c'était lui, celui qui l'accompagnait va dire à la femme, « Est-ce que tu connais ce monsieur ?» Elle va dire, « Je ne le connais pas. Mais je le remercie. Il est mieux que celui qui prétend être notre chef, qui est Omar. » Alors, après, le monsieur va lui dire, « Effectivement, c'est Omar qui est allé ainsi chercher de la nourriture pour vous. C'est lui, Omar. » Voyez-vous ?
Oui.
Donc, aujourd'hui, des gens, combien de gens qui vont prétendre, ce n'est pas celui-là seulement, c'est dans tous les pays qui prétendent être des chefs, alors qu'ils sont chefs pour eux-mêmes. Ils ne se soucient pas de la santé, de l'eau potable pour la population, de l'électricité pour les gens. Donc, du minimum même pour que les gens vivent en paix.
Okay.
Tout est pour qu'eux-mêmes soient à l'aise avec leurs proches et leurs familles, et ceux qui prétendent qu'ils sont vraiment les vrais leaders. Donc, vraiment, que Dieu vraiment aide ses frères musulmans qui sont dans ce nouveau problème là-bas, parce que ça, c'est un nouveau problème et ça peut salir l'image de l'islam.
Merci, imam. On reviendra tout à l'heure à vous et à notre ami fidèle Ayou Loumeya, et aussi aux questions des auditeurs et à quelques commentaires. Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Dialogue des religions, tous les mercredis à partir de 19h TU. Pour intervenir en direct, vos numéros de téléphone, questions et remarques sont les bienvenus sur notre page Facebook ou à l'adresse suivante fr@voanews.com.
Alors, notre ami de l'autre côté de la vitre, Joselle, m'a dit que nous avons M. Kwame Fulgence qui est en ligne. Alors, Kwame, à vous l'antenne.
Ok, moi j'ai une question ou même deux questions.
Allez-y.
Je voulais savoir qui est derrière, qu'est-ce qui favorise en fait cette montée en puissance des djihadistes dans ces moments-ci. Maintenant, bon, je voulais encore savoir qui est derrière tout ça.
Ok, merci beaucoup.
Ok, merci, monsieur.
Ok, alors merci beaucoup pour votre question, Kwame Fulgence.
Okay.
Alors, qui veut répondre à cette question, imam ou fidèle?
Je peux commencer et puis peut-être l'islam, l'imam va compléter.
Ok, allez-y.
Ouais. Qu'est-ce qui favorise le djihadisme? Nous l'avons dit mercredi passé, Kwame, si vous avez suivi. Nous parlions de l'islam, du christianisme qui se développe comme des petits pains au Congo, où nous avons souligné que dans l'histoire de crises étatiques, à chaque fois qu'il y a des crises financières dans un État, la religion croise. Les gens se tournent vers la religion pour le réconfort. Et quand cette crise financière et économique passe, les gens se remettent dans leurs vieilles habitudes. Donc la religion ici sert de ce que Karl Marx a appelé de l'opium. Ça vous fait dormir. Et nous voyons cela. C'est du même côté, c'est de la même façon aussi avec le djihadisme. les jeunes qui quittent les États-Unis, la France, tout le pays et qui rejoignent Abou Bakr en Syrie et maintenant en Irak, ils ne vont pas là-bas par plaisir. Ce sont des enfants qui viennent soit des familles où le papa n'est plus présent, où il y a beaucoup de crises de travail, ils ont des diplômes, mais ils ne trouvent rien. Ici, ce mouvement avec les promesses offre une opportunité de survie pour tous ces jeunes et tout ce monde qui est en crise spirituelle, mais aussi matérielle.
Merci.
Parce qu'en réalité, quelqu'un qui pense et qui réfléchit et qui est stable ne peut pas croire qu'un homme, comme l'imam l'a dit, que l'imam seul ne connaît même pas, peut féoder tout l'islam et devenir le chef où il va étendre l'islam dans tout le monde entier. Et lui devient comme le pape catholique, qui n'est même pas suivi par tout le monde. Donc ça, c'est une folie. Mais vous devez être dans une certaine crise pour aller. Encore une fois, donc, les crises économiques favorisent le djihadisme.
Merci.
Et les crises financières.
Merci, Fidèle. Imam Issouf Doumbia.
D'abord, pour parler de djihad, il faut connaître ce que c'est que l'islam. Il faut qu'il y ait un État et qu'il y ait effectivement un gouverneur pour qu'on puisse parler de djihad. Et quand il y a un État, cet État-là reconnu par les musulmans, puisque qui seront les gouvernés, donc le gouvernant reconnu, alors on peut parler de djihad si toutefois il y a d'autres qui veulent s'attaquer à cet État-là et qui ne veulent, ceux qui viendront, qui ne veulent pas que la loi de Dieu soit appliquée sur terre. Donc actuellement, si on veut regarder, il ne peut pas avoir de djihad, si on veut regarder islamiquement parlant, parce que les conditions ne sont pas remplies. On n'est pas quelque part où des gens sont en train de dire que vous ne pouvez pas, en tant que pays, appliquer l'islam. C'est comme l'Arabie Saoudite. Qui peut aller attaquer l'Arabie Saoudite aujourd'hui pour dire qu'ils ne doivent pas appliquer leur charia? Personne. Celui qui le fait, on doit être attaqué et il doit avoir djihad pour cela. Donc, s'il n'y a pas d'État islamique où la charia est appliquée et que ensuite quelqu'un vienne de dehors pour dire que vous ne devez pas adorer Dieu, mais vous en prenez aux gens pour les tuer, pour dire que vous faites la djihad, ça c'est mal comprendre cette religion. Voilà. Donc Dieu le dit dans le livre, ceux qui ne vous ont pas empêché d'adorer Dieu, vous ne devez pas les tuer.
Très bien.
Vous les laissez faire comme ils veulent sur terre, c'est eux qui seront jugés par Dieu. Vous n'avez qu'à prêcher la bonne parole, ceci est bon, ceci n'est pas bon, mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à être forcément musulman ou à vous suivre dans votre manière de voir, parce que c'est Dieu qui détient le cœur et c'est Dieu seul qui peut guider les gens.
Alors...
Donc, comme mon prédécesseur l'a dit, aujourd'hui, les jeunes sont souvent, si vous voulez, embobinés. Ils se retrouvent parce qu'on va leur donner de l'argent et on leur prétend le paradis en suivant ce genre de voie. Alors que si tu meurs de cette manière, d'abord tu es allé sans le consentement même de tes parents, par la vraie djihad au temps du prophète, quand tu voulais y aller, il te demandait si tu as tes géniteurs, va d'abord avoir leur consentement. Une fois, quelqu'un s'est présenté à lui, il lui a demandé « Est-ce que ton père et ta mère vivent ?» Il a dit « Ma mère vit. » Il a dit « Va demander le consentement de ta mère ou va t'occuper de ta mère. » C'est le meilleur des djihads.
Merci.
Au lieu de venir prendre l'épée.
Merci.
Voyez-vous, donc aujourd'hui, les gens confondent tout à la fois.
Effectivement, il y a une grande confusion au sujet du djihad et des djihadistes. L'imam Issouf Doumbia, imam et membre à la mosquée. Alors là, je vais essayer encore une fois de le dire correctement. Ahlu Sunna wal Jamaha à Philadelphie. J'ai bien dit cette fois-ci, imam? Allô?
Oui, oui.
Ok, parfait. Alors, nous avons Alphonse de Kinshasa. Alphonse, pour qui?
Oui, il est passé au Doumbia. Je voulais savoir.
Voulez-vous couper votre radio là? On vous entend, il y a un retour.
Oui, je m'en éloigne. Je voulais savoir, pourquoi vous musulmans, vous avez le même Coran Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence de compréhension de la parole de Dieu dans votre Coran? Parce qu'il y en a qui sont pour l'amour, pour la tolérance, mais d'autres sont des djihadistes, hein, qui refusent l'amour, la tolérance, ils veulent s'imposer la charia. Alors que c'est le même Coran. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une dualité de compréhension?
Ok, attendez, bon, imam, nous avons le même Coran, mais nous l'interprétons différemment.
Je crois que c'est comme vous avez la même Bible et vous l'interprétez de la même manière différemment. C'est comme ça, ça c'est l'être humain devant la parole de Dieu.
Effectivement, on peut faire dire n'importe quoi au Coran, on peut faire dire n'importe quoi à la Bible, c'est la nature humaine.
Ça c'est l'être humain.
Effectivement. Alors... comment dirais-je? Moi, j'aimerais vous demander, imam, parce que, parlant toujours de Abu Bakr al-Baghdadi, il a demandé aux musulmans de profiter du Ramadan pour venir renforcer ses troupes et prendre d'autres territoires. C'est le sens du Ramadan?
Alors, c'est-à-dire que lui, c'est-à-dire il va avoir des jeunes, il va avoir des jeunes qui vont l'écouter, mais il faut savoir que ça n'ira pas loin, c'est ce qui est la vérité, parce qu'il ne remplit pas les conditions pour faire une djihad en islam. Voilà.
Imam,
donc, ça n'ira pas loin.
Ça n'ira pas loin. Imam, il faut quand même que je pose la question, parce qu'on parle des sunnites et... l'Irak est majoritairement chiite. Alors, quand est-ce qu'on a eu la cassure entre chiites et sunnites ou vice-versa?
Bon, la cassure vient de très loin. C'est depuis, si vous voulez, après la mort du prophète. Alors, pour raccourcir, d'autres ont pensé que celui qui devait remplacer le prophète comme successeur devait être son cousin Ali.
Et alors, gendre, il était son gendre aussi.
Il était son gendre et son cousin. Donc pour ceux-là, la succession devait être, si vous voulez, héréditaire. Parce que c'était son cousin direct, c'est lui qui devait le remplacer. Par contre, quand on regarde dans les écrits et les références, c'est Abu Bakr qui devait remplacer le prophète. Puisque combien de signes et combien de preuves montrent que effectivement c'est lui qui devait le remplacer après sa mort? Je prends simplement une seule preuve. Lorsque le prophète était malade, il s'est évanoui et les gens attendaient dans la mosquée, ils n'avaient pas prié, puisque sa maison était juxtaposée à la mosquée. C'était l'antichambre de la mosquée. Et quand il va revenir à lui, il va demander est-ce qu'ils ont prié. Alors sa femme Aïcha va lui dire non. Et il va s'énerver, il va se fâcher même parce que les gens ont retardé de prier à l'heure. Il va dire est-ce que Abu Bakr n'est pas parmi eux pour dire si je ne suis pas là pour accomplir en tant qu'imam, pour diriger la prière, est-ce que Abu Bakr n'est pas là? Donc voilà la preuve. Une des preuves pour dire que s'il n'est pas là, celui qui doit le remplacer, c'est Abu Bakr.
En d'autres termes, en langage moderne, c'était Abu Bakr son dauphin, mais les chiites disent que ça devait être Ali, en quelque sorte.
Voilà. Bon, donc ça c'est la compréhension des gens et en même temps, celui qui l'a envoyé, hein, c'était celui aussi qui était connu. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui sont chiites, ceux qui pensent que Ali est supérieur à tous les disciples du prophète, ils se trompent parce qu'on a posé la question à Ali lui-même, qui est meilleur parmi les disciples du prophète? Ouais. Alors Ali va dire c'est Abu Bakr, et ensuite il va dire Omar.
Merci.
Ensuite il va dire Othman, ensuite il va même pas vouloir
c'est nommé. Merci, merci, imam. Merci, imam. Imam Issouf Doumbia, imam et membre à la mosquée Ahlu Sunna au Al-Jamaha à Philadelphie, et notre ami Fidèle Ayou Lumea, écrivain et consultant en développement des organisations. Je remercie encore une fois Joselle Morissin de l'autre côté de la vitre. C'était au micro Idrissa Seloudia, le dialogue des religions, la voix de l'Amérique, Washington.
Afrique. Le Monde aujourd'hui.